20 petites minutes de débat avant de faire une pause bien méritée. J'ai une question là-bas au fond, une ensuite, une là. Alors, au fond, et soyez tous aussi brefs et concis que les orateurs ou les spécialistes que nous avons entendus, s'il vous plaît. Et présentez-vous.
Non, ça marche. Oui, ça passe. Ça passe ?
Oui, ça passe.
Merci. Jean-François Levitou, vétérinaire aquacole cette fois-là. J'avais l'intention d'intervenir pour répondre à une question de M. Yvon lors de la conférence de presse de janvier. M. Yvon s'était étonné...
Attendez, monsieur, là, parlons d'aujourd'hui, là, pas de ce qui s'est passé en janvier.
Je reprends exactement la discussion que vient de lancer le confrère Vanier sur le zoosanitaire, c'est 100% ça. Voilà ce qui se passe, M. Yvon nous avait dit, les paysans de la mer répètent les erreurs commises par les éleveurs il y a 20 à 25 ans. C'est exactement ça à 100%. Il y a 20, sinon, ce n'était pas il y a 20 ou 25 ans. C'était il y a un demi-siècle. Parce que j'étais encore gosse et je sortais avec mon père et on soignait les poulets, les vaches, les cochons. Donc, nous avons vécu une crise de l'industrialisation avec des pathologies émergentes nouvelles. À ce moment-là, peu importe le vibrio, je suis désolé madame, peu importe le virus, on soigne. Et c'est ce que nous avons fait, nous, à l'éphémère qui s'appelait le Nexo à Tahiti, 1974, chacun connaît l'avantage de Tahiti, les maladies y apparaissent en 15 jours, 3 semaines, vous savez. La virulence, on la voit sur les boîtes de pétri. Et donc, en gérant mieux, sur un angle zoosanitaire, le système, les élevages de crevettes dans le monde sont nés d'une connaissance néo-nexo qui a des quelques fossiles à l'éphémère, et ils ont su travailler de manière sanitaire, pas à pas. Et il ferait suffire de la même chose en ostréiculture, quand vous voulez.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Et après, ouais. Monsieur.
Oui, bonjour. Philippe Le Gall, président du comité régional de Bretagne-Sud. Donc le sujet qu'on vient d'évoquer sur le côté scientifique nous sensibilise particulièrement. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues sont là cet après-midi. On voit bien entre le discours que M. Renaud a eu et M. Le Duc qu'on a des différences importantes parce que d'un côté vous dites qu'il y a des études qui ont été faites dans le milieu, enfin des choses. M. Le Duc dit que ce n'est pas le cas. Ce genre de discours, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, depuis 7-8 ans, c'est régulier. Et c'est notre souci qu'on a. Parce que nous, en tant qu'ostréiculteurs, sur le terrain, on ne comprend pas tout. On a du mal. Et là, je refais référence, et la ma question est plutôt s'adresser à Joël, c'est que le 12 mai dernier, donc il y a eu le débat au Sénat, et lors de ce débat, le ministre Vidalis a fait une conclusion dans sa présentation, où il dit « Il sera intéressant que le Parlement se saisisse du sujet via l'OPECS, dont le statut garantit l'indépendance de l'expertise. Est-ce qu'il serait intéressant, peut-être, de faire appel à l'OPECS, pour que vraiment... nous, professionnels, on puisse avoir une réelle expertise neutre. Parce que aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Et là, on a beaucoup de difficultés et je crois que c'est notre problème numéro un. Voilà ce que je voulais évoquer. Et juste un petit mot pour Pierre, on fait déjà du captage en Bretagne.
Monsieur, là, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Louis Tessier, producteur d'huîtres à Blainville-sur-Mer dans la Manche et président du comité régional Normandie-Mer du Nord. Je voulais revenir, je pense que ce qu'a dit Philippe tout de suite est extrêmement important, puisque évidemment, pour pouvoir construire une politique et avoir une vision, il faut absolument que les premiers éléments là qui sont mis de façon débat et bon, peut-être parfois confus, mais qui permettent en tout cas de mettre les problématiques sur la table, sont extrêmement intéressants. Je voulais revenir, moi, sur un point qui était abordé tout à l'heure, et je voulais avoir un peu l'avis des scientifiques sur la domestication. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on nous a expliqué que tout élevage d'espèces sauvages n'était pas possible, et donc c'était la domestication s'il fallait s'orienter vers ce type de production. Je pense que, évidemment, on le voit bien dans le temps, c'est ce qui s'est passé aussi en agriculture et on voit aujourd'hui une agriculture qui est fortement développée. La question, moi, qui me préoccupe, c'est de savoir si une domestication telle qu'elle est faite actuellement, c'est-à-dire pour moi sur les géniteurs, les larves et sur le naissin, ou sur lesquels on prend une attention extrêmement importante, hein, puisque en fait ces animaux sont sont sélectionnés par différentes méthodes, qui sont en plus triés au niveau de la taille des larves. Sont nourris, on utilise des produits actifs, etc., de façon à ce qu'on puisse maîtriser cette production en circuit fermé. Ces animaux qui, pendant tout ce laps de temps, sont extrêmement protégés et choyés, sont mis directement dans le milieu naturel pour tout leur stade d'élevage. Est-ce qu'on peut parler là de domestication, et est-ce que ça a du sens? Est-ce que la domestication doit être totale ou partielle? Voilà.
Merci. Joël Labbé, sur l'idée de confier une mission à l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et puis ensuite messieurs Renaud et monsieur Leduc sur la domestication.
Oui, donc lors du débat que l'on a eu il y a quelques jours ici au Sénat, spécifiquement sur l'huître, débat parlementaire que j'avais provoqué à ma demande, le ministre dans ses réponses nous a interpellés en tant que parlementaires, nous disant je souhaite que vous vous saisissiez du sujet. Et c'est vrai qu'on a un organe spécifique qui s'appelle l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques. Alors je trouve que ça arrive tard, puisque les choses sont déjà parties, on l'a dit à plusieurs reprises, maintenant on ne va pas refaire l'histoire, on en est là, mais il vaut mieux tard que jamais, et le fait que l'OPEX puisse se pencher sur le sujet, c'est un point et un point nécessaire. Maintenant, l'OPEX, il y a la question du temps pour faire les choses, parce qu'ils ont autre chose en cours, donc ça on le verra, mais on va saisir très rapidement l'OPEX, d'une part. D'autre part, on a un organe qu'on utilise insuffisamment à mon sens, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Et là, à titre de parlementaire et avec mon groupe, on envisage aussi de le saisir pour une étude au sens plus large, moins pointu scientifique, mais au sens plus large sur l'aspect sociétal et en termes de consommation, d'étiquetage et tous ces aspects. Voilà. Et d'autre part, le côté scientifique, Madame Marilyn Houssin, donc, qui est devenue spécialiste, et dans le cadre d'un laboratoire public sur ce type de recherche, on voit déjà le niveau d'avancement. Je pense qu'il faut véritablement mettre des moyens pour que ce laboratoire, en relation avec le centre de référence de l'huître, puisse véritablement poursuivre ses travaux.
Merci. Messieurs Renaud et Leduc, sur la question sur la domestication. Monsieur Leduc, vous avez la parole.
Sauvages. Ça existe. Ça existe sur des tas d'espèces, je peux vous donner des tonnes d'exemples. Et en particulier, il y a une technique qu'on donne le nom auquel on donne le nom de ranching, qui repose sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux qui sont jeunes, à l'état d'œuf en général, et après leur grossissement, il ne s'agit pas de... Il n'y a pas de reproduction en captivité, etc. Il s'agit simplement de grossissement, ce que s'approche la congéniculture quand elle va prélever en pleine mer. C'est ça, finalement, ils prêtent. Et ça n'est pas vraiment de la domestication, parce que derrière la domestication, en général, alors là, il y a quand même des bagarres d'espères, des fois, là-dessus, sur la définition, mais enfin, en général, ça implique une certaine sélection. Hein. C'est-à-dire qu'on va privilégier des caractères qui sont intéressants pour l'homme, puisque la domestication se fait au profit d'une espèce qui est l'homme. Et donc on va sélectionner des caractères de l'animal ou de la plante qui sont intéressants par l'homme. Et ça existe, je dirais, l'expérience, et je pense que toutes les milliers d'années qu'on a de recul montrent que c'est tout à fait possible, sans conséquences dommageables pour le milieu naturel. Avec même parfois des conséquences plutôt positives, hein, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de milieux qui ne peuvent survivre que parce qu'il y a des activités d'élevage qui existent dans ces zones-là. et même sur les problèmes, les aspects conchyliculture, hein, on a parlé beaucoup du plancton. Le fait que le plancton soit consommé, qu'il n'induise pas d'autres productions, limite aussi probablement les envasements, hein, donc a une influence sur le milieu naturel, et qu'après, si on aime les marais, c'est de l'influence positive, si on n'aime pas les marais, c'est de l'influence négative, ça c'est autre chose, question de perception. Donc, mais la domestication en elle-même n'est pas quelque chose, je dirais, à refuser, et si elle est possible, elle s'est toujours faite, et bon... Pourquoi pas, les abeilles sont maintenant vous avez la plupart des abeilles qu'on a sont des abeilles domestiques, hein, c'est quand même bénéfique pour le milieu naturel. Donc je dirais, surtout par rapport à ce que vous disiez, moi ça me gêne pas que si qu'on fasse de la sélection, parce qu'après qu'on va y prélever, parce qu'après aussi il y a la méthode de prélèvement. Certains vont dire on prélève sur du rocher, d'autres ils vont dire on prélève sur des tuiles, d'autres sur des tuiles vernissées, d'autres sur du plastique. Ah, plastique, non. Donc on peut discuter, je dirais il y a différentes possibilités, c'est pas si clair que ça. Par contre, et si ça vient de naissins qui peuvent faire l'objet d'une sélection, je dirais pourquoi pas, mais par contre, le problème de la triploïde, qui est un organisme différent, lui, hein, ça c'est un organisme, c'est un autre organisme, hein, d'accord, on lui donne le même nom scientifique, puisque c'est pas un croisement, mais c'est un type d'organisme scientifique, là, il convient d'être beaucoup plus prudent et d'être très rigoureux.
Merci Patrick Leduc. Je vous propose une pause. Ah, oh, je vois trois mains qui se lèvent. Bon, alors Monsieur Renaud, et alors rapidement.
Oui, mais très très rapidement. Je pense qu'en particulier, on est quand même là aussi à des questionnements vraiment importants, mais qui sont aussi des choix de filière. En particulier, ce qu'on voit aussi, c'est en matière d'écloserie, il y a bien des choses qui se sont développées parce qu'aussi, à un moment donné, il y avait des besoins par rapport à un approvisionnement qui était fluctuant dans le temps. Et donc, c'est ces choses-là. Donc après, moi, je n'ai pas d'élément de réponse ou de dire l'IFREMER a telle ou telle position. Par contre, un institut de recherche comme l'IFREMER peut accompagner le secteur professionnel pour aider dans des choix. Mais pas plus que ça.
Alors, nous allons manger la pause. Madame Morisseau, Monsieur Viau, une troisième main. Je vous ai... Ben, d'accord.
Bonjour. Il y a eu, par le passé, une espèce qui a été domestiquée, au sens de Monsieur Marisol, c'est-à-dire la palourde. Et donc, je voulais savoir quels étaient les enseignements qu'on avait tirés de ce qu'il s'était passé sur l'élevage de la palourde.
Je crois que M. Marisol peut répondre tout de suite, si vous en êtes d'accord. M. Marisol, domestication de la palourde.
Oui, donc la palourde, c'est un élevage d'animaux sauvages, reproduit en écloserie, certes, mais sans domestication, qui n'a pas duré longtemps. Il faut bien comprendre que la palourde, c'est un animal qui vit isolé, contrairement à l'huître, qui est un animal envahissant, qui vit à très grande proximité. Et pour donner un exemple de ce que l'élevage peut faire sur un animal sauvage, c'est à partir du moment où on a regroupé les palourdes sous des filets pour pas qu'ils soient mangés par les crabes, eh bien, un agent pathogène a immédiatement pris le dessus parce que la technique lui permettait de s'imposer. Et l'animal sauvage, bien que produit en écloserie mais non domestiqué, a disparu des élevages et les élevages ont disparu. Il existe encore des élevages de palourdes sur l'île de Chauzet qui sont faits exclusivement par l'écloserie de la Sacmare parce que depuis 20 ans, elle a réussi à sélectionner des palourdes résistantes au vibrio. Et donc là, on a un effort de domestication, si vous voulez, qui finalement apporte un succès en termes d'élevage.
Merci. Monsieur Viau, Gérald Viau.
Merci. C'est vrai que bien des années après l'élevage de la palourde, on la retrouve dans le milieu de façon fort impressionnante. Moi, je suis très intéressé par l'écologie de l'invisible. J'ai bien regardé ce que j'ai pu capter de Geneviève Azul, auquel je me bats depuis 20 ans pour dire les mêmes choses, avec les mots d'acteurs que sont les miens, avec les mots de professionnels que sont les miens, où depuis bientôt 50 ans, j'ai repéré dans mon secteur la disparition des espèces et l'interactivité qu'il peut y avoir avec les bactéries, les pathogènes, les virus, tout ce que vous voulez, sur différentes espèces. Et finalement, sans être scientifique, quand on constate la disparition des espèces, c'est l'espèce la plus nombreuse qui résiste et qui est le plus impactée. Fatalement, il ne reste plus que celle-là Donc toutes ces petites bêtes viennent à la rescousse et se vengent de l'agressivité dont elles ont fait partie. Je ne sais pas si je suis clair. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est l'évolution des milieux. On a assisté depuis quelques années à une perturbation brutale de nos écosystèmes, à une mauvaise qualité biologique des eaux, à un appauvrissement des milieux. Et aujourd'hui, on a le résultat d'un comportement sociétal qui est ce qu'il est. Alors, ce phytoplancton aujourd'hui, qui est de mauvaise qualité dans certains cas, qui agresse nos productions coquillières et qui ont pour résultat, voire, d'avoir un impact sur la déformation larvaire de nos coquillages. Voilà dans quelle situation on est. Alors, aujourd'hui, Monsieur Vanier, on va mettre en place cette étude épidémiologique. On en a encore discuté ce matin. On a une autre réunion de travail le 23 juin, je crois, de mémoire. On va mettre tout ça en place. Mais ça me fait penser à beaucoup de choses. À mon historique personnel, si vous me permettez. Quand j'ai commencé à travailler avec mes parents, on avait des dégorgeoirs. Là, vous savez, les bassins en béton dans lesquels on met les huîtres à tremper pendant 48 heures avant l'expédition, qui était au niveau de la marée. On nous a dit, mauvaise qualité des eaux, il faut monter le niveau de ces dégorgeoirs, de ces bassins. Puis aujourd'hui, en l'espace de 3 ou 4 opérations, on est carrément insubmersible et on fait l'alimentation de ces réserves par pompage. Mais on n'a pas été au cœur du sujet. On n'a pas été au cœur de ces eaux. N'ayons pas peur du mot, puisque on est en dehors de l'étiquetage, mais de la contamination des eaux continentales, des eaux terriennes qui nous arrivent dans le milieu, des marées littoraux, des marées rétro-littoraux, dont on a vu l'évolution d'exploitation de ces marées passer en céréales. On a vu l'agressivité de l'urbanisme qui s'est développée autour de la côte. Alors je ne suis pas en train de décrire le scénario où on va se foutre une balle dans la tête en sortant d'ici. C'est pas ça. Mais faire porter toute la misère du pauvre monde sur le monde conquilicole, c'est inadmissible aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Quand on parle des contaminations, des transferts qu'on peut interdire, et puis tout ça, bien sûr, on est quand même des responsables dans la profession. Quand on a des stocks d'huîtres qui sont impactés, on va pas les emmener à l'autre bout de la planète. Mais quid des eaux de ballast, par exemple?
Merci. Alors, moi, je veux bien qu'on continue le débat. Il n'y aura pas de pause, hein. Alors, oui ou non? Parce qu'après, excusez-moi, une seconde d'attention. Après, il y a quand même des interventions sur, on va dire, les consommateurs. Et il me semble que oublier les consommateurs, qui sont aussi les acheteurs, serait peut-être néfaste. Donc, je voudrais vraiment avoir ce troisième volet. Alors, une question de monsieur qui l'a demandé depuis longtemps, et après, on fera la pause, si vous le voulez bien, de façon à garder un petit temps de débat aussi tout à l'heure. Et d'entendre nos amis les consommateurs, si je peux parler ainsi.
Donc, Daniel Guémenet du CISAF, c'était un peu pour être sur la même longueur d'onde que monsieur Viau et que monsieur Molo et le Duc. Ils ont clairement indiqué dans leurs exposés que l'introduction dans le milieu d'animaux avait des impacts non négligeables et pouvait modifier le milieu. Et là, on oublie un peu que, on l'a dit au début, mais que l'huître est une espèce invasive et qu'à ce titre, elle est dans le milieu parce que l'homme l'a introduit pour des raisons, et vous l'avez dit, économiques, mais ce n'est pas seulement la triploïde, la diploïde aussi, et que qu'elle soit diploïde ou triploïde, le problème est le même. C'est une espèce invasive, et justement, il faut la contrôler, la maîtriser, parce que sinon, en termes de biomasse, on peut avoir des problèmes, et les problèmes environnementaux qui sont rappelés par M. Viau, effectivement, impactent l'élevage de ces huîtres. Mais qu'elle soit diploïde ou triploïde, là n'est pas la question. Puis pour les questions de mortalité, il y a eu une excellente étude de fait par le SMIDAP dans les Pays de Loire sur l'année 2014, un excellent rapport qui donne des résultats assez intéressants dont on ne discute pas aujourd'hui. C'est dommage.